FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
Et bonjour, c'est Studio B, l'émission qui donne envie d'aller au ciné. Avant de vous présenter notre film et notre invité de la semaine, voici le programme de l'émission. Dans moins de 2 minutes, ma sélection des sorties ciné de mercredi prochain avec un biopic musical, un nouveau film avec Zendaya et l'histoire d'une jeune avocate. Vers 11h30, ce sera le point sur l'actu avec le box-office, des nouvelles de Cannes, une série sur Brigitte Macron et puis Tarantino qui abandonnerait son nouveau film. Mais pour notre film de la semaine, direction le Maroc et plus précisément la région de Tanger où se trouve le théâtre du film Indivision. Une grande et belle maison avec un vrai manoir même on peut dire, avec une immense propriété. C'est la maison de la famille Bechtani, une famille bourgeoise qui va justement s'y retrouver au grand complet pour un mariage. Un mariage mené d'une main de fer dans un grand velours par la grand-mère, avec alors qu'un projet de vente va mettre le feu au sens propre et un peu au sens figuré aussi, dans la bonne entente de façade de cette famille. Mais c'est pas qu'une histoire de famille puisque Indivision est tournée comme un thriller et parle aussi beaucoup de nature, de classe sociale, de réseaux sociaux, de choix et de jusqu'où on peut aller quand on veut vraiment quelque chose. Le tout vu par les yeux d'une jeune ado qui a décidé de ne plus prononcer un mot mais que l'on va quand même beaucoup entendre parler. Notre invité pour en parler, c'est Emmanuel Barreau, producteur et distributeur de DKB Productions. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, on est ravis de vous avoir dans ce studio. Ça a été un peu rocambolesque, on va dire, mouvementé. Pour ne rien cacher à personne, c'était Leïla Kilani, la réalisatrice du film qui devait venir à votre place et qui a dû céder sa place puisqu'elle est malade, elle est vraiment...
Elle a une pneumonie, ce qui n'est pas rien, et donc oui. Elle ne peut pas ouvrir la bouche sans tousser.
Ce qui est un peu embêtant pour une émission de radio.
Hein. C'est catastrophique.
D'accord. En tout cas, on est ravis et merci beaucoup d'avoir pu prendre sa place comme ça au pied levé.
Merci à vous. C'est
pas toujours facile et on est content de pouvoir quand même parler du film. On va revenir justement sur votre rôle de producteur et distributeur parce que c'est des mots qui sont connus pour les gens qui sont dans l'univers du cinéma, mais pour le grand public c'est des métiers qui peuvent parfois être un peu obscurs. On sait pas ce que vous allez pouvoir nous expliquer ce que vous faites, mais avant, comme à chacun de nos invités, on vous propose de choisir deux questions, une question que vous avez envie qu'on vous pose et je vous la poserai un moment dans l'émission, une question que vous ne voulez pas que je vous pose. Est-ce que vous avez trouvé vos deux questions, Emmanuel Barreau?
Eh ben, celle que j'aimerais qu'on me pose, c'est pourquoi continuer à produire des films d'auteur.
Oui.
Et celle que je voudrais pas qu'on me pose, c'est est-ce que vous pouvez me pitcher le film?
Ah, d'accord. c'est un peu embêtant parce que je la pose à chaque fois. Mais comme vous ne voulez pas que je vous la pose, eh ben, je ne vous la poserai pas. En tout cas, j'ai noté qu'on vous parlera de pourquoi continuer à produire des films d'auteur. Celle-là, elle est notée. Voilà, je note en même temps que je le dis. Et maintenant qu'on a tout, on peut partir. Vous écoutez Beurre FM, nous sommes le dimanche 21 avril. Bienvenue dans le 136e numéro de Studio B.
Studio B, les sorties ciné de la semaine.
Ça sort mercredi prochain comme Indivision, Back to Black, un nouveau biopic musical sur la chanteuse Amy Winehouse. Connue sur la fin autant pour ses addictions que pour ses chansons, elle était avant tout une artiste.
Je veux que les gens entendent ma voix et oublient leurs problèmes pendant 5 minutes. C'est ce que c'est le girl power pour moi. Sarah Vaughan, Lauryn Hill, je préfère te prévenir. Je suis pas une Spice Girl.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Un autre style musical, un autre style de vie aussi, mais beaucoup de succès quand même.
L'album est numéro 1 mondial. Le meilleur classement qu'une artiste britannique ait atteint aux États-Unis. Du jamais vu.
Alors évidemment, le film va aussi montrer ses parts un peu plus sombres, on va dire, notamment l'emprise de son père ou sa relation tumultueuse avec son ex-compagnon, Blake Fielder Civil, qui lui aurait fait découvrir l'héroïne.
J'ai rencontré quelqu'un.
Tu craques toujours pour les bad boys.
Je pense pas être sur cette terre seulement pour chanter. Je veux me marier. Je veux être maman.
Tu finiras par te tirer avec un mec célèbre.
T'es mon âme, t'es ma raison d'être, je t'aime.
C'est le second film autour d'Amy Winehouse. Le premier était sorti en 2015. C'était plutôt un documentaire oscarisé d'ailleurs, avec des vraies images d'archives et qui avait été un grand succès mondial au box-office. Si les critiques musicaux anglais ne sont pas tendres avec cette version Back to Black qui sort donc ce mercredi en France, la ressemblance entre Amy Winehouse et Marisa Abella, l'actrice qui l'incarne dans le film, est vraiment frappante. Elle précise que le but du film n'est pas de juger l'entourage de la chanteuse, comme ce qui a été reproché au documentaire sorti en 2015. Elle dit, si les spectateurs estiment qu'Amy n'aurait pas pas dû aimer ou faire confiance à telle ou telle personne, c'est leur droit. Mais les seuls méchants dans notre histoire sont les addictions et les paparazzi. Voilà donc pour Back to Black qui sort ce mercredi. Tout comme Challengers, un film avec Zendaya. Zendaya qui est l'actrice qui monte en ce moment à Hollywood avec ses récents rôles, notamment dans Spider-Man ou dans Dune. La voici en tête d'affiche, à l'affiche d'un film un peu sulfureux, on va dire. Elle est la femme d'un tennisman en perte de vitesse qui doit affronter un adversaire assez spécial pour lui puisque c'est son ancien meilleur ami. Mais c'est aussi l'ex de sa femme, donc du personnage joué par Zendaya, du temps où ils étaient amis. Il y a donc une double revanche à prendre pour ce personnage. Et puis sort aussi ce mercredi, Première Affaire, un film sur les débuts d'une jeune avocate que la réalisatrice Victoria Muzendak a eu l'idée de faire après avoir vu se métamorphoser une jeune avocate de son entourage, envoyée à 25 ans en catastrophe au Sable d'Olonne pour défendre un grand-père accusé d'inceste. Bande-annonce de Première Affaire.
Les policiers vous ont placé en garde à vue pour vous interroger dans le cadre d'une enquête pour enlèvement et séquestration. Je vais vous aider à raconter votre histoire aux policiers.
Un corps a été retrouvé dans le champ des Loges, la OTT. La garde à vue vient d'être requalifiée en homicide volontaire.
Je représentais un des suspects potentiels.
Impressionnant, vous paraissez si jeune.
Non mais Nora, t'as passé 2 jours avec un criminel?
Vous risquez un procès aux assises et jusqu'à 30 ans de prison pour meurtre.
Moi j'ai rien fait, le policier me fait peur.
Je pars là.
Il est innocent et je vais le prouver.
J'ai rencontré quelqu'un.
Ça n'a rien à voir avec ton affaire, j'espère.
Vous parlez aux flics en dehors de la procédure?
On peut avoir des problèmes.
Fallait y penser avant.
La vérité du client, c'est la vérité. Faut se bouger un peu, la Nora, merde!
J'ai peur. S'il se prend 30 ans de prison à cause de moi.
Il y a des gens qui sont en prison qui n'ont rien fait et des assassins en liberté, c'est comme ça.
Voilà donc pour Première Affaire qui sort donc ce mercredi. La réalisatrice s'est beaucoup documentée, a lu des PV d'audition, a aussi assisté à des procès d'assises pour décrire au mieux ce métier si particulier mais nécessaire d'avocat. Emmanuel Barraud, peut-être un film entre les trois, votre
oh, celui que c'est plutôt Zendaya, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Enfin, je suis pas le seul, mais que j'avais découvert dans Euphoria où elle était quand même extraordinaire. Et donc voilà, elle fait une carrière incroyable. Et puis je trouve que c'est vraiment un beau visage de l'époque, des jeunes générations. J'aime beaucoup.
Ouais. Et bien alors c'est parti, vous irez donc voir Challengers.
Absolument.
Studio B, l'interview.
Et on arrive donc à notre interview. Emmanuel Barraud, vous êtes donc le producteur et le distributeur de Indivision pour le compte de la société donc DKB Productions. Avant d'arriver au film, je voulais parler de ces deux métiers différents, de producteur et de distributeur. Alors c'est quoi un producteur? Quel est le rôle du producteur dans un film? On imagine que c'est celui qui amène l'argent, mais c'est pas que ça.
C'est plutôt celui qui le trouve. Il en amène un peu, mais il va aussi le chercher. Il va le chercher. Donc il y a des institutions. En France, il y a le CNC qui donne de l'argent pour faire des films. Et au Maroc, il y a le CCM qui est un peu la même chose. Ce sont des centres de la cinématographie nationale. Nationaux plutôt. Et donc là, d'abord, c'est les premiers guichets. Surtout que là, c'est du cinéma d'auteur. Donc on n'intéresse pas en premier chef les chaînes, c'est-à-dire les partenaires privés qui eux, vont parier plutôt sur des choses plus commerciales, qui sont plus fédératrices, sont plus mainstream, comme on dit.
Parce que pour trouver l'argent pour un film, généralement, c'est ça, c'est les institutions publiques, les chaînes de télé, et puis éventuellement des privés.
Des coproductions, des distributeurs qui peuvent amener de l'argent, des vendeurs internationaux, c'est-à-dire c'est des gens qui vont aller vendre aux distributeurs de tous les pays du monde, et puis il y a des Sofica, il y a des fonds d'investissement, enfin bon, il y a pas mal de guichets privés, mais eux attendent des retours sur investissement clair. Donc sur un film d'auteur qui prend un certain risque et surtout sur un film d'auteur marocain, c'est plus dur de se tourner vers ces gens-là.
Donc le producteur, son premier rôle, c'est d'aller chercher l'argent au mieux de ces personnes. Mais c'est pas tout, j'imagine.
Non, c'est pas tout. D'abord, il doit choisir le film, il doit être d'accord avec le scénario, il doit être d'accord avec l'auteur sur le projet à mener, il doit être d'accord sur l'aspect esthétique, sur artistique, c'est-à-dire qui va jouer dans le film, qui va faire les images, qui va prendre le son, qui va faire la musique. Donc il y a aussi évidemment un travail artistique en amont à négocier. Et puis ensuite, une fois qu'on est d'accord, eh bien on commence à...
C'est fait en collaboration avec le réalisateur, j'imagine?
Oui, si son scénario est incompréhensible, ou s'il est trop simple, ou s'il y a des choses qu'on n'aime pas, on essaye de négocier.
Vous l'aidez, vous le dirigez.
Voilà, en tout cas, on dit, tu veux pas refaire cette partie, et voilà. Donc, évidemment, il y a vraiment un travail d'édition, comme j'ai envie de dire, sur le scénario, et ensuite, évidemment, sur tout, qui va travailler sur le film, parce que c'est pas rien, un film, ça... Le réalisateur est un chef d'orchestre, mais à l'arrivée, il faut qu'il ait un bon chef opérateur. C'est quand même pas rien. L'image, il faut qu'il ait des bons preneurs de son, des bons acteurs, surtout des très bons acteurs. Donc voilà, c'est tout ce travail qu'on fait. Un bon chef décorateur, on avait un très bon chef décorateur sur le film. Il s'appelle Angelo Zamparotti. Tout ça, c'est des gens, ce qu'on appelle les chefs de poste, ceux qui vont diriger les postes déco, lumière, son. C'est des gens qui vont vous aider, qui vont vous porter, qui vont porter le réalisateur à faire son film. Sans ces gens, sans la complicité de ces gens, c'est une vraie complicité.
C'est une équipe en fait. C'est vraiment une équipe.
C'est une équipe et c'est une équipe qui va vraiment vous porter. Hein, donc, faut pas se planter sur l'équipe.
Donc ça, c'est votre rôle de producteur, mais vous avez une deuxième casquette pour, comme on dit, c'est la casquette de distributeur. Qu'est-ce qui fait le distributeur?
Le distributeur,
il distribue,
c'est-à-dire qu'il va prendre son téléphone, et il va appeler tous les exploitants de France et de Navarre. Il y en a 2000.
Un peu plus les salles de ciné.
Voilà, exactement. Les salles de ciné, ce qu'on appelle les exploitants de salles, et essayer de placer son film.
Voilà, ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent chaque semaine.
Vous en citez trois.
On se fait l'écho de trois, en effet.
Au moins 15. Oui. Et donc, on est 15 chaque semaine dans la seringue, et il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc, il faut se battre. Alors, il y a des salles qui sont très engagées sur le cinéma d'auteur.
Parce qu'évidemment, c'est plus facile pour le distributeur de Dune que pour le distributeur de Indivision.
Oui, d'autant que, ben bien sûr, puisque l'exploitant est garanti déjà de faire beaucoup d'entrées. Et puis ensuite, moi, je suis un tout petit distributeur. Donc, les distributeurs forts, ils peuvent imposer des films, y compris des films moins bons. Parce que si on leur dit non, après on leur dit, t'auras pas d'une.
Voilà.
Par exemple.
Oui. Je
veux
bien
pas,
sûr, oui, non, mais.
Donc les petits qui arrivent derrière, là, ils doivent être très pugnaces et très persuasifs. Donc on va vendre au porte-à-porte, c'est du porte-à-porte, hein, maintenant, pour moi en tout cas, ce film, et on arrache une salle, deux salles, trois salles, quatre salles, il y en a sur le territoire.
Donc c'est un rôle très important pour le film, parce que s'il n'y a pas distributeur, ou s'il y a un mauvais distributeur, parce qu'il y a forcément un distributeur, mais si le distributeur n'est pas bon, le film, il n'est pas vu en fait.
Exactement.
Il n'est pas disponible.
Et c'est le dernier maillon de la chaîne. C'est l'exploitant.
Oui. Hein,
s'il n'y a pas ce maillon, le film a été fait pour rien. Après, bon, on peut toujours le vendre sur une plateforme ou à la télé, mais enfin,
c'est pas la même chose.
Pas l'idée.
Parce que je le dis à chaque fois en fin d'émission, le cinéma, c'est mieux au cinéma.
Exactement.
Bon, revenons donc sur Indivision, le film dont on parle aujourd'hui, film de Leïla Kilani, dont je ne vous demanderai pas de pitcher le film, puisqu'on s'est mis d'accord sur le fait que.
Je vais vous dire pourquoi je veux pas le pitcher.
Ah, ça, c'est intéressant.
Parce que je sais pas le faire. Simplement, résumer ce film en une phrase, c'est vraiment très difficile parce que. Il y a beaucoup de personnages parce que il y a une intrigue. Une fois qu'on l'a dit, on n'a rien dit parce que c'est un problème qui va déclencher une apocalypse. Voilà, je pourrais dire ça comme pitch, mais ça serait pas terrible. Voilà.
Oui, mais
donc, et même la question qui me gêne le plus à chaque fois, on nous dit est-ce que vous pouvez nous raconter le film ? J'y mets par quel biais je vais attaquer. Voilà.
Parce que
c'est
justement, il y a plein d'angles sur lesquels l'attaquer, entre guillemets, ce film. Bon, on va en parler pendant une heure, donc on va essayer de couvrir le maximum d'angles. Peut-être commencer par l'héroïne du film, c'est donc Lina. Lina, elle a choisi de ne plus parler, et pourtant on l'entend beaucoup, en off en tout cas, durant tout le film. Qu'est-ce qui a donné envie de rendre ce personnage muet? Le personnage principal du film muet, c'est original, c'est pas banal.
Une enfant qui a fait vœu de silence à la mort de sa mère, c'est dit dès le début du film, donc je ne spoilie rien, et qui va devenir par contre ultra connectée sur les réseaux sociaux. Et Leïla a eu cette idée assez belle, elle s'est dit finalement, toutes ces influenceuses, elle influence parce qu'elle est ornithologue en fait, comme son père, et donc elle est passionnée d'oiseaux, et elle a 200 000 followers sur les oiseaux migrateurs. Et donc elle poste. Et elle s'est dit, Leïla, mais au fond, toutes ces filles qui postent des trucs, toutes les gens, c'est une espèce de Scheherazade, qui doivent poster un truc, qui doivent raconter une histoire tous les jours, sinon elles crèvent. Et donc c'est cette idée d'une Scheherazade 2.0 qui était née dans la tête de Leïla.
Quand elle parle en off, elle a un débit vraiment ultra rapide, même une façon très particulière de parler. Vous l'avez guidée ou elle a été guidée ou c'est elle qui a trouvé cette voix toute seule?
Ah non, ça a été guidé. Il y a pas d'improvisation dans le film. Hein. C'était Leïla a vraiment mis en scène ses acteurs au cordeau. Et donc, voilà, c'est genre une petite fille qui ne peut pas parler, mais qui déborde de mots.
C'est ça. Il y a une urgence de les sortir. Donc, ils sortent sur un débit très rapide.
Exactement. Donc, elle poste cette voix off qui s'emballe, qui est pleine de poésie, qui est pleine d'effroi, qui est pleine d'émotions, finalement, puisque c'est une émotion adolescente qui va lui faire, d'ailleurs, commettre ce que seul un adolescent peut faire, un acte irréparable ou un acte extrêmement transgressif que je raconterai pas, mais qui est quelque chose qui va faire basculer le film.
Ah, elle parle pas directement avec son entourage, donc vous le disiez, elle parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer avec ce décalage? Parce que c'est au-delà du fait de la Sherazade 2.0, il y a vraiment un décalage. Elle parle plus avec tout le monde, avec le monde entier, qu'avec les gens qui sont juste à côté d'elle. C'est intéressant, ça.
En fait, elle communique quand même avec son père. Elle s'écrit sur la peau aussi.
Oui, aussi.
Enfin, elle est en permanence, elle réagit et au fond, c'est quand même un personnage qui est extrêmement présent, que les gens ne voient pas. Elle pense ne pas être vue, mais elle est quand même vue par la bonne, par exemple, qui s'occupe d'elle. Et donc c'est effectivement le personnage qu'on voit pas venir, c'est le personnage qu'on ne regarde pas et qui va tout faire exploser.
Le film, c'est Indivision. Il sort en salle ce mercredi. Film de Lélia Kyani avec notamment Ifam Matei qui joue donc le rôle de Lina. On en parle jusqu'à midi. Vous restez avec nous. C'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Chaque semaine, on parle d'un film. Notre film coup de cœur cette semaine, c'est Indivision, film de Leïla Kilani, qui sort ce mercredi en salle. On en parle avec le producteur et le distributeur du film, Emmanuel Barraud, qu'on retrouve juste après avoir écouté la bande-annonce.
عربين فيرمس ديالنا وتهنا ومنا تصنع بوراتها يلا 20 سنه وحنا كنت تنى وشي شاري انا بايعه
وانا بايعه معك
لا انا معك
لا يا بايعه
انا وخوتي ما بايعش
انا
وخوتي ما بايعش
هاد الهجيج غيديونا هاد الارض وهاد الدار وغادي يخليونا والو
حقي نعمي به اللي بغيت نحبسو نوقفو حقي ما يتباع ما يتشرى Renuncio a la transmisión de la propiedad.
Mira, cabrón.
Mira lo que dice.
A mí no me insultas.
Alors un extrait de la bande-annonce qui est en fait un extrait long du film, hein, et c'est assez intéressant. On se rend compte, en tout cas pour ceux qui ont compris les mots en arabe, que là au centre du film, hein, et de tous les personnages de la famille, il y a cette maison qui s'appelle la Mansouria. C'est elle que la grand-mère veut vendre, c'est ce qu'on entend dans l'extrait, et elle doit pour cela avoir l'accord de toute la famille puisqu'elle est en indivision. On va peut-être rappeler le statut de l'indivision.
C'est quand un bien appartient à plusieurs personnes, donc on ne peut pas vendre tant que tout le monde n'est pas d'accord.
Voilà, tout le monde doit être d'accord pour la vendre.
Et c'est typique des biens dont on hérite. Oui. Évidemment, parce que c'est quand même ça, c'est une famille d'héritiers, c'est des gens qui ont ce terrain et ce palais qui n'ont pas acheté, ils ont juste hérité d'un aïeul qui était brillant, et eux ils sont beaucoup moins brillants. C'est souvent malheureusement le cas des héritiers.
Pas toujours, mais c'est vrai que ça arrive souvent. Est-ce que finalement cette maison c'est aussi un personnage du film?
Ah oui, complètement. De toute façon, tout le cinéma de Leïla, elle a toujours une obsession, c'est le territoire. Vous entendrez toujours dans ses interviews, elle parle des territoires. Elle avait fait sur la planche son premier film, c'était le port de Tanger, c'était la zone franche de Tanger. Elle l'avait fait avant dans le rêve des brûleurs, son documentaire sur ces brûleurs, ce qu'on appelle ces jeunes gens qui essayent de passer, qui attendent à Tanger pour essayer de passer en Espagne. Elle avait créé un territoire dans la nuit qui était très beau. Et là, c'est pareil.
Elle reste sur la zone de Tanger. Elle est sur le territoire de Tanger.
C'est vraiment, elle a fait au moins trois films qui se passent à Tanger. Et là, évidemment, la maison est une, mais pas seulement la maison, le territoire autour, puisque tout le problème, c'est ça, c'est que c'est un lieu de passage des oiseaux migrateurs. Et en plus de ça, il y a des bidonvilles sur le terrain. Donc c'est un terrain qui foisonne de problèmes, qui foisonne de vie. Et qui vont l'empêcher d'atteindre son but, c'est ça.
On a entendu à la fin de l'abondance, en tout cas, donc il y a des dialogues en arabe et en espagnol sur la fin. On est vers Tanger, donc à proximité de l'Espagne. Lina, elle parle en français, ou en tout cas quand elle s'exprime sur les réseaux, quand elle écrit sur son corps, quand elle nous parle en off, c'est toujours en français. Il y a une volonté de mélanger les trois langues.
Oui, parce que c'est comme ça qu'ils font à Tanger, surtout parce que l'Espagne est à côté, donc ils parlent beaucoup espagnol, français parce que c'est aussi reste un pays un peu francophone, et puis l'arabe, donc ils mélangent tout. C'est extrêmement vivant, moi j'aime beaucoup ça. Ça, on nous avait dit, faites pas ça, c'est compliqué, trois langues dans un film. Mais moi je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'ai vu dans beaucoup d'endroits dans le monde, où les gens parlent plein de langues, enfin au moins deux.
Et qui peuvent et ça se mélange.
Voilà, et ça se mélange. Et donc ils peuvent s'engueuler en espagnol, parler en espagnol pour pas que la petite comprenne, s'engueuler en français et puis se dire des trucs gentils en arabe. Enfin tout ça peut se mélanger et voilà,
ça fait vrai surtout parce que c'est comme ça que ça se passe.
Et c'est comme ça que ça se passe. En tout cas dans ces grandes familles, parce que c'est quand même aussi un truc je pense qui est plus bourgeois que populaire, mais quoique
au-delà de la maison, on l'a dit, il y a une immense propriété, et c'est presque ça qui intéresse plus les promoteurs immobiliers qui veulent racheter le terrain pour en faire sûrement une grande construction immobilière. Une propriété en partie recouverte de forêt, et le film s'ouvre d'ailleurs sur de magnifiques plans d'oiseaux. Vous avez voulu donner une grande place à la nature, en tout cas Leïla a voulu donner une grande place à la nature dans le film.
Oui, d'abord parce que c'est un endroit qui est véritablement un lieu de passage des oiseaux migrateurs et notamment des cigognes. C'est pour ça qu'il y a ces nuées de cigognes qui les entourent. Et il se trouve qu'avec le réchauffement climatique, les cigognes, quand elles arrivent à Tanger et qu'elles partent ensuite vers l'Espagne, comme il y a des bouleversements climatiques, elles sont perdues, elles reviennent à Tanger. Donc il y a déjà un espèce de bouleversement. C'est un coin où les oiseaux sont assez nerveux. Et comme évidemment c'est un conte écologique d'une certaine façon ce film entre autres parce que justement c'est vraiment ce qui va rendre fou le fils de la famille et la petite, c'est l'idée qu'on aille vendre à des promoteurs espagnols un terrain aussi beau et qui n'appartient pas à la famille véritablement, mais qui appartient aussi aux oiseaux. Et c'est ça qui va être le grand chamboulement, c'est qu'ils vont, le père va décider de renoncer à la propriété pour faire un acte qui n'existe, je crois, que dans le droit islamique, qui s'appelle le habous. Le habous, je crois que c'est dans le Coran. C'est vous dites, je renonce à ma propriété et je donne ce qui m'appartient. Ça peut être un hôpital, ça peut être un bout de terrain, et je donne ma propriété au bien public. C'est-à-dire, et c'est l'État qui est garant de ça. Il ne peut pas, donc plus personne ne peut l'acheter. Donc, il y a un des propriétaires en indivision qui dit, je fais un bous.
Ce qui vient complètement faire capoter le projet immobilier.
Exactement.
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de l'indivision, et l'indivision, il faut que tout le monde soit d'accord, et donc l'État ne peut pas rendre son bous après.
Exactement.
Et donc,
il pense extrêmement moderne. C'est quelque chose, et d'ailleurs c'est quelque chose qui a emballé les associations de défense de écologistes au Maroc, qui vont sortir eux-mêmes le film. Ils ont dit, nous, ce qu'on aime dans votre film, c'est que c'est pas un film militant, mais au fond, les films militants écologistes, ça prêche les convaincus. Votre film, là, il montre un truc, c'est le habous. Ça, c'est très très bon. C'est parce qu'on peut bloquer des tas de ventes avec cette idée, pour peu que quelqu'un refuse de vendre. Et donc ça les a complètement emballés et ils sont en train de faire un travail remarquable. On sort le film en juin au Maroc, ils sont déchaînés et ça va être génial ça.
Une fiction peut parfois avoir plus d'impact qu'un documentaire du coup sur ce...
Oui, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est un point de vue, peut-être que tout le monde n'a pas le même point de vue, mais cette idée que un film peut révéler quelque chose et peut être saisi par les militants plutôt que plus facilement qu'un film militant qui dira ce qu'on attend de lui, enfin voilà, qui sera moins surprenant.
Pour montrer la nature, il y a des magnifiques plans qui sont vraiment dignes de documentaires animaliers. Hein, les ailes d'oiseaux qu'on voit au début du film, qu'on voit aussi dans la bande-annonce. Vous qui nous écoutez, vous pouvez déjà aller voir la bande-annonce. On se rend vraiment compte. Il y a une beauté sur les tout premiers plans sur cet oiseau avec ses plumes bleues qui prennent dans la main de manière très douce qui regarde comme ça. Il y a aussi les plans, vous en avez parlé sur les plans sur les cigognes. Qu'est-ce qu'ils viennent dire dans le film, ces plans?
Ah, ils viennent dire l'amour de la nature. Je sais pas. C'est une douceur des pères qu'un père et sa fille partagent. Ils sont passionnés d'oiseaux tous les deux, donc il les étudie véritablement. Donc c'est pour ça. On a travaillé avec des vrais spécialistes des oiseaux en Espagne. On les avait attrapés là. C'est eux qui tentent des filets. Ils attrapent les petits oiseaux. Ils les badgent. Ils les retrouvent. Ils étudient un peu tous les changements justement que provoque les bouleversements climatiques. Et donc, qu'est-ce que ça dit? Voilà, ça dit une passion pour autre chose que l'argent et le matérialisme.
Une passion pour la vie. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi des choses belles.
Bah oui.
Comment vous avez fait pour les réaliser ces plans? Je pense notamment à ceux où Lina est au milieu des oiseaux. Ouais. Il faut se retrouver au bon endroit, au bon moment. Quand on regarde les making-of de films documentaires, il y a des gens qui peuvent passer mais des heures et des heures à attendre le bon plan, etc. Là, il faut en plus qu'il y ait l'actrice qui soit là au bon moment. Ça
n'a
pas dû être facile.
On a attendu les oiseaux pendant longtemps. Et quand on est arrivé, tout le monde nous a dit c'est trop tard, ils sont partis vers l'Espagne. Et comme tout d'un coup il faisait très chaud en Espagne, ou il faisait trop froid, je ne sais plus exactement, les cigognes sont revenues.
Oui,
et
un jour,
et donc elles se posent partout dans les arbres, sur les murs, etc. Et elles attendent. Et c'est là qu'on a pu tourner. Et qu'on a eu la grâce de ces... C'est absolument hallucinant de se retrouver dans une foule de cigognes.
C'est grand comme oiseau, c'est très grand.
C'est hyper grand et c'est très très étonnant. Alors ça ne chante pas une cigogne, ça caquette. Ça fait ça. La seule qui ne caquette pas vraiment, c'est la cigogne noire qui grogne. Elle a une espèce de grognement. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle la cigogne noire. Enfin, en plus dans le film il y a une petite histoire. Son surnom de réseaux sociaux, ouais, c'est la cigogne.
Son pseudo, oui. Cigogna Nera.
Exactement.
Et alors surtout ces oiseaux, ils peuvent aussi être inquiétants. Il y a un côté Hitchcock, il y a un côté le film des oiseaux, parce que comme c'est une grande nuée d'oiseaux, ça peut être inquiétant et on peut avoir l'impression qu'ils viennent menacer aussi la famille.
Absolument, ils se font de plus en plus menaçants. Parce que une question se pose dans le film très vite, c'est à qui appartient la terre? Et tout d'un coup, les oiseaux, on a l'impression qu'ils revendiquent leur part. Voilà. Les oiseaux revendiquent leur part de l'indivision. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup ce titre, même s'il est un peu notarial. C'est vraiment, je trouve, le mot de l'époque, indivision. On vit tous sur une planète. La fin du monde, la fin du mois, tout ça, on en est tous responsables. Voilà, c'est ma lecture de producteur. Leïla en dirait peut-être autre chose, mais moi je trouve que c'est un très bon titre. Les vendeurs internationaux voulaient qu'on appelle ça Birdland.
Oui.
Moi je trouve ça un peu faible. Indivision, je trouve ça très très bien.
Ça s'appelle donc Indivision. Ça sort mercredi en salle. C'est le film de Leïla Kilani.
Studio B, l'actu ciné.
L'actu ciné avec le box-office dans un contexte toujours assez faible pour les ciné français, seulement 2,2 millions de spectateurs dans la semaine en salle. C'est SOS Fantôme qui prend la tête du box-office avec 310 000 billets vendus dans un mouchoir de poche devant Kung Fu Panda qui reste second au bout de 3 semaines d'exploitation avec 300 000 nouveaux spectateurs. Tandis que Godzilla X Kong descend de 2 marches et est donc 3e avec 245 000 nouveaux spectateurs sur sa seconde semaine en salle. Des nouvelles de Cannes, du festival de Cannes, après la sélection officielle, ce sont les sections parallèles qui ont révélé leur sélection cette semaine pour les films venant du Maghreb. On notera à la quinzaine des cinéastes la sélection de Ryan Msirdi pour son court-métrage Après le soleil, et côté long-métrage East of Noon de l'égyptien Ala El Koussi, un film sur un musicien rebelle. L'Égypte à l'honneur aussi dans la semaine de la critique avec la sélection de The Brink of Dream de Nada Riad et Ayman Al-Manir, un film sur une troupe de théâtre féminine dans une zone d'Égypte très conservatrice. C'est toujours à la semaine de la critique, mais en séance spéciale hors compétition, le Marocain Saïd Amish Belharbi présentera La mer au loin, l'histoire de Nour, émigrée clandestine à Marseille qui rencontre rencontre Serge, un flic charismatique, et sa femme. Brigitte Macron, héroïne d'une série. L'annonce de Gaumont cette semaine a surpris beaucoup de monde, y compris a priori à l'Elysée, qui dit avoir découvert le projet par la presse. Une série de 6 épisodes est donc en préparation, qui racontera, je cite, la trajectoire romanesque de la première dame Brigitte Macron. La série n'a pour le moment pas de plateforme ou de chaîne de télé pour la diffuser, et donc cherche un distributeur, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Tarantino abandonne The Movie Critic. Ce devait être le 10e et ultime film de Quentin Tarantino, un projet avec Brad Pitt sur un critique de cinéma dans le Los Angeles des années 70. Il avait déjà retardé le projet en réécrivant le scénario et il aurait finalement décidé d'abandonner sans raison. Mais Tarantino est quand même un peu connu pour ses changements d'avis, donc il n'est pas impossible qu'il y ait un rebondissement dans cette affaire et que cette décision ne soit pas définitive. Merci d'être avec nous, c'est toujours Studio B. On est toujours ensemble jusqu'à midi avec Emmanuel Barraud, le producteur et le distributeur du film Indivision de Leïla Kilani. On continue d'en parler avec lui juste après la pause. Restez avec nous.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
Chaque dimanche entre 11h et midi, et puis n'importe quand vous voulez, en podcast, depuis la plateforme, depuis toutes les plateformes de podcast, depuis le site beurrefm.net ou depuis l'application Beurre FM, c'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. On parle aujourd'hui du film Indivision. Il sort ce mercredi, c'est un film de Leïla Kilani, un film qui se passe dans une belle maison avec une belle propriété autour au Maroc, que la famille propriétaire, en tout cas la famille héritière, va se battre pour certains veulent la vendre et certains veulent la garder. C'est le principe d'une indivision. On en parle avec Emmanuel Barraud, qui est donc le producteur et le distributeur du film. Les forêts autour de la Montsouria, qui est donc cette maison, sont donc menacées par les producteurs immobiliers qui veulent racheter le terrain pour en faire un complexe immobilier. Menacé à moyen terme, mais à plus court terme, ce sont les incendies qui la menacent. On le voit sur l'affiche du film notamment. Qu'est-ce que la réalisatrice a voulu montrer avec ces incendies, dont la cause reste un peu floue dans le film d'ailleurs? On ne sait pas trop qui c'est qui les a lancés au final.
C'est comme je disais tout à l'heure, elle adore les territoires, le concept de territoire, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup creuser. Et donc là, elle voulait un territoire qui s'embrase, c'est-à-dire que à cause d'une indivision, à cause d'un changement, elle voulait une révolution copernicienne complètement, où toutes les valeurs allaient vriller comme ça. Et pour arriver à là, il fallait que tout flambe, que tout s'embrase. Donc ça s'embrase pas par hasard. Il y a aussi sur le terrain, il y a des cigognes, il y a cette famille, mais il y a aussi des bidonvilles. Et eux aussi, ils voient d'un très mauvais œil l'idée que des promoteurs espagnols rachètent, parce que ça veut dire qu'ils vont être expulsés. Et donc c'est ça aussi qui va contribuer au feu, et en tout cas à la révolte.
Est-ce qu'elle a pu être inspirée aussi un peu par les incendies qui ont eu lieu ces derniers étés, justement dans cette région du Maroc notamment, parce qu'il y a beaucoup d'endroits au Maghreb qui ont brûlé?
C'est arrivé juste après nous. C'était comme le film est un peu prémonitoire là-dessus, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que
le tournage a lieu avant. Hein, en fait,
avant, ça, oui, avant. On a tourné avant. C'était écrit bien avant, et ça s'est passé exactement comme ça se passe un peu dans le film. D'ailleurs, il y a eu aussi des révoltes, il y a eu des expropriations. Il y a tous ces problèmes sont des problèmes qui se passent au Maroc, mais qui se passent d'ailleurs partout dans le monde. Hein, à un moment, cette espèce de massacre de la nature, de loi de l'argent, des expropriations, c'est partout. Donc c'est quelque chose qui a eu lieu juste après qu'on soit parti. Ces incendies qu'on a cherchés partout, qu'on n'avait pas.
Oui, parce que vous vouliez les filmer.
Ils ont eu lieu après, on avait trouvé des endroits pour filmer, mais.
Alors justement, comment vous avez fait, vous, pour tourner, pour filmer des incendies qui n'avaient pas lieu dans un endroit, une forêt qui c'est dangereux, quoi, parce qu'ils sont vraiment spectaculaires et c'est vraiment bien fait, cette partie-là.
Oui, c'est des astuces. Il y a très peu d'effets spéciaux, hein, comme par exemple quand il court dans les flammes, il a vraiment couru dans les flammes. C'est dans des endroits où il y avait des feux, je ne veux pas dire parce que sinon ça perdrait un peu, mais on a trouvé des astuces. C'est ça qui est super avec le cinéma, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent, on trouve des astuces. Et on peut arriver à trouver des astuces comme des incendies gigantesques.
Vous avez commencé à en parler un peu, mais la forêt abrite un bidonville, un village en fait qui squatte les terres de la Mansouria, des Bechtani, et qui a peur de se faire déloger si la propriété est vendue. C'est même sûr, ils se feront déloger. Qu'est-ce qui vient montrer ce bidonville?
Il vient montrer que à qui appartient la terre. Est-ce que c'est les gens qui ont un titre de propriété ou c'est les gens qui ont des familles et qui vivent dessus? C'est les Indiens, c'est l'altérité en face, des gens qu'on veut nier, qui n'ont pas le droit au mot, et qui tout d'un coup, eux aussi, comme les oiseaux, vont se rappeler au bon souvenir de ceux qui veulent les ignorer. La révolte des affamés, la révolte des damnés de la terre, ça a toujours existé, ça va exister de plus en plus. Une fois de plus, hein, c'est toutes les problématiques de l'époque, l'écologie, la fin du monde, et puis la fin du mois, où est-ce que je vais vivre, comment je vais remplir mon assiette, tout ça, c'est posé dans le film. Alors, cette famille, alors, Leïla a voulu, c'est pas un film social au sens où elle a vraiment voulu prendre le parti de la famille, l'intérieur de la famille. On voit assez peu les Indiens, un peu comme dans un film de John Ford.
Elle prend le point de vue peut-être plus que le parti. C'est plus le point de vue que le parti de la famille.
Elle prend le point de vue, oui bien sûr. Mais enfin, après, c'est pas des personnages méchants. C'est ça qui est très intéressant et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans le cinéma de Leïla, c'est que tout le monde est plutôt gris. Il y a pas de blanc, de côté blanc et de côté noir. Il y a tout le monde est gris. Tout le monde va jouer sa carte avec le jeu qu'il a en main. Tout le monde va faire quelque chose. Sans l'ombre d'un plan ni d'une stratégie à long terme, c'est-à-dire qu'ils vont jouer quelque chose, ils vont réagir. Elle, celle qui veut vendre, celle qui pousse la matriarche, la terrible maréchale qui magouille pour essayer de vendre son truc. Finalement, son plan c'est quoi? C'est d'acheter un petit appartement à Marrakech alors qu'elle vit dans un palais. Oui. Le plan est nul. La petite, elle va faire ce truc incroyable que je vais pas dire, mais elle réagit comme une adolescente le fait. Le père va renoncer à la propriété. Et après, c'est quoi le plan? Il n'y a pas de plan. Simplement, ils réagissent dans le moment. Et c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méchanceté profonde propre à chaque personnage.
Pour revenir sur les bidonvilles, c'est une situation qui existe au Maroc?
Oui, des
bidonvilles qui squattent des propriétés qui
sont sur des terrains qui appartiennent à des propriétaires, bien sûr. Et c'est arrivé, je crois que c'est arrivé à Tanger récemment. Ils ont exactement la même histoire. Ils ont voulu vendre des promoteurs espagnols et les gens se sont révoltés.
Et on parlait de à qui appartient la terre, à ceux qui possèdent ou à ceux qui y vivent. Est-ce que dans ceux qui y vivent, il y a aussi les animaux qui y vivent?
Bien sûr.
Donc les cigognes et les.
Bien sûr.
C'est pas que les bidonvilles.
Exactement, et c'est pour ça que ces cigognes se mettent à tourner autour de tous ces gens qui mettent le feu à leur territoire. Ça appartient aux oiseaux aussi. La nature appartient à la nature.
Vous parliez de la grand-mère de Lina. Donc, alors, son vrai nom c'est Amina. Elle est surnommée la maréchale. Déjà, ça veut tout dire. Hein, ce surnom, un personnage ambivalent. Elle paraît quand même plutôt gentille au début. Elle paraît, elle est gentille avec Amina. Elle est gentille aussi avec la bonne. En tout cas, elle paraît gentille avec la bonne sur les premières images. Mais elle peut aussi être complètement manipulatrice et mauvaise quand les gens vont pas dans son sens. C'est pas du tout le personnage classique de la grand-mère maghrébine.
Non, pas du tout. Mais ça, elle est là-dessus. Encore une fois, elle crée des personnages qui sont pas attendus. Là, c'est pas du tout un personnage protecteur, c'est un personnage qui en a soupé de cette famille d'Aristo, qui lui pèse. Son mari était elle a pesé, ses cousins sont insupportables. Elle a en charge cette espèce de maison qui l'énerve, donc elle veut liquider. En fait, c'est une grande affaire de liquidation.
Elle veut s'en débarrasser, quoi.
Elle veut liquider cette propriété, aller faire sa vie enfin un peu librement pour les années qui lui restent. Donc oui, non, c'est quelque chose de, c'est une pulsion égoïste, mais c'est une pulsion normale aussi quelque part. Quand on en a marre, hein, parfois faut être un peu égoïste.
Oui, c'est
si on peut s'en sortir.
Elle est à la tête, on va dire, de cette famille qui paraît assez soudée au début. Il y a des premières images, sans rien spoiler, on a l'impression que tout le monde se retrouve dans la maison familiale et que tout le monde est heureux et que mais très rapidement le film montre vite qu'il y a la façade ce qu'on voit et puis qu'en dessous ça peut vite être faux, quoi.
Bon, en tout cas, c'est une famille comme on en a tous, avec des problèmes et des rancœurs. Mais quand on arrive pour faire la fête, on fait la fête.
Oui.
Donc ça part bien. Puis très vite, la fête va être gâchée, bien sûr. Ils vont être rattrapés par la troupe. Mais c'est une famille, une grande famille qui a des bons côtés. Voilà. Donc là aussi, c'est très classique.
On parlait tout à l'heure du bidonville. Entre la famille et le bidonville, il y a un personnage qui fait le lien. C'est la bonne, oui. Chinoui. Alors déjà, c'est un surnom aussi.
Ouais, ça veut dire la chinoise.
Ouais. Les surnoms sont généralement pas très sympathiques, hein, du coup.
Surtout, il n'est pas chinoise du tout.
Oui, c'est ça.
C'est pas horrible comme surnom, enfin, c'est bizarre.
Elle paraît être aimée, est assez proche de la famille, et c'est pourtant un des éléments qui va semer le trouble.
Ben oui, parce qu'ils vont lui faire un coup horrible. Et à ce moment-là, là aussi, donc, alors, qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Dans les familles très populaires, il était d'usage de donner, enfin de confier une de ses enfants à une famille riche pour qu'elle soit copine avec la petite de la famille. Mais en réalité, sous couvert de ça, c'est une bonne. C'est-à-dire qu'elle fait toutes les tâches ménagères, elle s'occupe de la petite.
C'est la très bonne copine, quoi.
Elle a une relation très forte avec la petite fille de la famille, donc celle qui est la Scheherazade 2.0. Et en même temps, elle va commencer à comprendre qu'elle est, elle va être prise entre deux feux, entre sa famille du bidonville, qui ne veut pas être expulsée, et la famille qui a pris soin d'elle, les aristocrates. Et donc, elle va être prise entre deux feux, et elle aussi, comme tous les autres, elle va dire « je vais jouer ma carte ». Voilà, c'est ça l'idée, c'est toujours regarder les gens dans leur... comment dire, dans leur pulsion, dans leur désir, dans leurs inquiétudes, dans leurs élans, plutôt que de les regarder de façon morale. On est par-delà bien et mal. Chacun va à un moment jouer sa carte. Quoique la bonne, on comprend très bien ses motivations. À un moment, elle va se libérer de tout ça. Elle va se libérer, elle va donner raison à personne, elle va se libérer.
Mais tout le monde la joue perso, finalement, sans penser au groupe.
Mais tout le monde la joue perso, mais... comme on fait tous un peu dans la vie, c'est tout d'un coup le collectif devient insupportable. Tout d'un coup le collectif devient mensonge. Hein, c'est ça. Il faudrait que je me soumette à un mensonge du collectif. Non. Et là, tout le monde va se libérer.
Sans révéler l'histoire, pour revenir sur Chinouïa, on va dire qu'à un moment elle prend l'ascendant sur la grand-mère. Voilà. Est-ce que vous avez voulu un renversement, une prise de pouvoir un peu des pauvres sur les riches?
Bah, en tout cas, de la bonne sur la maîtresse de maison, oui, c'est une révolution, oui, une révolution. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une libération de l'être soumis de la famille qui devient d'être le personnage fort. Et l'autre se déballonne. Enfin, oui, elle se déballonne. Oui.
Il faut voir le film, de toute façon, pour avoir tous les détails.
Il faut le voir, absolument.
Ça sort mercredi, on est ça s'appelle Indivision. Un film qui est classé, j'ai regardé sur Allociné, il est classé dans la catégorie drame et thriller. Ça vous convient comme classement?
Oui, parce que je vois pas bien. C'est un drame. C'est un drame, c'est pas triste comme film. C'est
oui,
un
oui. Film... Drame, ça veut pas dire toujours triste. Mais
voilà,
c'est
thriller, parce que il y a un mort, parce que ça les gens se battent, oui.
Il y a une volonté de faire un thriller. Il y a une notion de suspense, il y a une notion de pression, il y a une notion de c'était une volonté de faire un film comme ça, un peu sous pression.
C'est un thriller un peu libre. Voilà, oui. On n'est pas dans le thriller. Bon, ça veut tout dire et rien dire. On est un peu, c'est une case. Hein, c'est difficile de
oui,
trouver
c'est
une
pas,
case.
C'est pas un thriller d'action, quoi. Voilà, c'est pas James Bond. Voilà, c'est pas Mission Impossible.
Mais enfin, ça court, ça crie, ça se déchaîne quand même. Mais on n'a pas, c'est pas un blockbuster américain. Ça, c'est sûr.
Le film est porté par un beau casting d'acteurs. On a cité Ifem Maté, mais on pourrait aussi citer son père, Mustapha Shindat, la grand-mère, Baya Bottia El Oumani, et puis aussi Chinouïa, hein, Ikram Layashi. Ils ont été trouvés sur casting, ils ont été
sur
trouvés.
Sur casting à Tanger, ils n'étaient pas du tout, c'était pas des professionnels, ils sont tous débutants.
C'est tous leur premier film.
Oui, c'était leur premier film.
C'est un défi.
Oui, oui.
Et vous disiez tout à l'heure que Lila les a beaucoup dirigés, à laisser peu de part à l'improvisation.
Très peu, je crois, et même quasiment pas. Tout était écrit. Les seuls qui ont pu improviser, c'était les oiseaux, finalement.
Oui.
Parce qu'on n'a aucune prise. Mais sur les textes, elle était extrêmement précise. Et elle les a fait travailler vraiment très, 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 très longtemps et très laborieusement. Oui.
C'est un film qui, vous le dites, hein, il a été tourné avant les incendies, donc il a été tourné dans les années 2020, j'imagine.
2015. Alors c'est un film qu'on a tourné.
C'est un long projet, c'est un projet en cours. En fait.
On a dû commencer fin 2015, début 2016. On a retourné ensuite en 2018 jusqu'en 2019, je crois. On a tourné. On a tourné par petits bouts. On n'a pas tourné non-stop.
Oui, bien sûr.
Mais on a tourné ensuite en mode commando, notamment pour avoir les oiseaux. Pour avoir les oiseaux, c'était ça le plus dur. Donc on les a poursuivis.
Un projet au long cours qui a un grand parcours de festival qui a été montré.
On a été au festival. On était en compétition à Rotterdam. On était au FIT de Marseille. Après, il y a des petits festivals très très bons, notamment le festival du film arabe de Famec dans l'est de la France, qui nous a donné son grand prix. On a eu le festival du film africain à Apt. Là, on était très contents parce qu'on a eu le prix des jeunes. C'est les jeunes qui nous ont donné le prix de la meilleure fiction. Eux, ils trouvaient ça formidable. Enfin, moi, je peux pas vous dire parce que je vais spoiler le film. Mais ils avaient des questions incroyables les lycéens. Et puis on a eu le prix d'innovation dans un super festival, le festival du Québec de Montréal. Festival de Montréal.
C'est important pour un film le parcours en festival.
Oui, bien sûr, parce que ça offre une visibilité. D'abord, il y a beaucoup de professionnels qui regardent quand même qui passent en festival et c'est très important, très important.
Jusqu'au parcours final, qui est donc la sortie. En tout cas, la sortie française, puisque il y a une autre sortie qui est très, très attendue. Vous disiez la sortie au Maroc au mois de juin.
Au Maroc et en Tunisie, on sort en septembre, je crois.
Bon, et en tout cas, pour le voir en France, c'est à partir de mercredi. Ça s'appelle Indivision. Merci beaucoup, Emmanuel Barraud.
Merci beaucoup.
D'être venu parler de ce film qui sort donc ce mercredi, film de Leïla Kilani, qu'on excuse de pas avoir pu venir à cause de sa pneumonie. On lui souhaite en tout cas un prompt rétablissement. Ça tombe mal sur la semaine de la promo, quoi. C'est quand même vraiment dommage. Mais on choisit pas. En tout cas, on la salue si elle nous écoute. Indivision sort donc ce mercredi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur beurrefm.net, sur l'application et sur toutes les applications de podcast. On se retrouve la semaine prochaine entre 11h et midi. On parlera du film Petite Main, un film sur le mouvement de grève des femmes de ménage dans les grands hôtels parisiens. D'ici là, n'oubliez pas, et surtout n'en doutez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Ciao.
Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.